Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir à tous. Merci d'être venu ce soir. Nous sommes heureuses d'accueillir le chercheur et écrivain Saul Pandelakis pour son nouveau livre « Les dialogues de Ti ou Tai, je ne sais pas, Peterson », publié aux éditions Goethe. La modération ce soir sera assurée par l'universitaire Déborah Gay. Merci d'avoir accepté de la prendre en charge. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Festival des littératures et des oralités qui aura lieu à la Fabrique la semaine prochaine, qui s'appelle Novo Futur. Vous avez tous sur les petits flyers qu'on a mis en caisse. Voilà. Comme d'habitude, la rencontre est enregistrée et le temps d'échange entre Saul et Déborah sera suivi d'un temps d'échange avec vous si vous avez des questions à poser. Voilà, bonne rencontre.
Donc, merci beaucoup, Arrêt. Donc je vais parler doucement, merci au micro. Merci beaucoup Ariel et merci à tout le monde d'être venu ce soir pour le lancement de cet ouvrage. Donc. Merci donc Terra Nova de nous avoir invités à parler science-fiction, alien, amour, New York. Bref, on va échanger autour de ce livre. Donc je n'ai pas besoin de présenter Saul, ça a déjà été fait. La moitié de mon speech est mis à la poubelle, merci beaucoup. Je vais commencer par lire le résumé, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Ou alors sauf si tu veux présenter le livre. Parce que j'imagine, alors on va faire un petit sondage, qui ici l'a lu? Donc on a 4 personnes, on va pas spoiler. Qui sait de quoi ça parle? Ceux qui, bon allez, un peu plus, mais pas beaucoup. Est-ce que tu préfères qu'on lise le résumé ou
Il paraît que mes quatrièmes sont nuls, donc éventuellement je peux... Enfin, à chaque fois,
alors les quatrièmes sont nuls, donc je propose, on a l'auteur avec nous, c'est plus fun.
Moi je peux le dire, c'est moi qui les écris, donc, je me dis ouais, bon... Alors, donc, de quoi ça parle, cette chose-là? Sans trop spoiler, ça suit donc Tai Peterson. Voilà, toujours un nom imprononçable, c'est bien pour être bien référencé après. Qui est une jeune femme française. Alors après, c'est toujours délicat de la définir par des marqueurs identitaires. Mais bon, il se trouve que c'est une femme cisgenre, lesbienne, française expatriée à New York. Et tous les matins, Tai a un travail qui consiste à aller dans un centre. Et ce centre sert à l'étude d'extraterrestres. Et la particularité de ce centre, c'est qu'il a été construit autour du vaisseau des extraterrestres. Et seconde particularité, les extraterrestres n'ont pas été très subtils. On ne va pas dire qu'ils aient exactement atterri. Ils ont plus exactement écrabouillé Central Park. Voilà. Ils ont atterri sur Central Park. Et donc, une sorte de centre s'est construit autour du vaisseau. Et... elle fait partie d'un dispositif assez spécifique qui s'appelle les dialogues, qui consiste à rentrer en conversation avec les extraterrestres sur le mode du binôme ou de la paire. Voilà. Chaque médiateur ou médiatrice, puisque c'est le nom de ces gens, travaille avec un extraterrestre qu'il ou elle étudie, avec des buts pas toujours clairs, qui sont à la fois culturels, politiques, disciplinaires, mais aussi linguistiques, puisque bien sûr, quand des extraterrestres débarquent, a priori, on ne parle pas leur langue. Donc toute la confrontation, elle sert aussi à élucider des questions de langue de ces extraterrestres qui s'appellent, ou qu'on appelle d'ailleurs, les Sunjus, mais on reviendra peut-être là-dessus. Je ne sais pas si c'est un assez bon résumé selon toi qui a lu le livre.
Vous avez compris de quoi ça parle à peu près, donc c'est un bon résumé.
Je cherche à pas trop en dire non plus, voilà, non, parce que ça reste un court roman, donc il ne s'agit pas de trop dévoiler.
Et donc on voit qu'on reste, comme dans la séquence Hartmann, pareil, c'était ton livre précédent, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu? Si, pareil, les mêmes. Donc, il y en a qui ne l'ont pas lu. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Ce n'était pas un quiz sur l'œuvre de l'auteur. Pas de problème. Mais on reste dans un domaine de SF. La séquence Hartmann se passait dans l'espace. Ici, tu as choisi de rester dans notre bonne vieille terre à New York. Alors, pourquoi choisir déjà une Française expatriée à New York? Pourquoi ce choix?
Bah justement, par rapport à la séquence. Parce que dans la séquence, alors pour les personnes qui l'ont lu, peut-être ça vous a frappé.
Alors, tu dis que c'est un roman qui se passe dans l'espace, mais pas que. Il se passe aussi sur Terre. Mais une Terre où on ne sait jamais exactement où on est. Alors, on suppose qu'on est dans une puissance libérale, une démocratie néolibérale assez riche. Il y a des petits éléments d'identification, comme il y a une ligne de métro rouge, mais enfin, des lignes de métro rouge, il y en a à Toulouse, à Paris, à New York, donc ça ne nous aide pas beaucoup. Et c'était fait exprès, en fait. C'était aussi pour dire, finalement, cette action, elle se passe un peu où vous voulez, et vous allez convoquer vos images de ville, et c'est celles-là qui viendront et qui vont donner de la chair à votre histoire. Et là, je me suis dit, ça m'avait frustré à certains moments de travailler comme ça, et quand j'ai commencé à bosser sur les e-dialogues, et je raconterai peut-être comment, assez rapidement, j'ai eu cette idée vraiment absurde, quoi, un truc un peu gaguesque, de où ils ont atterri. Ah, ils ont atterri dans le désert du Nevada, voilà, c'est comme toujours dans les films, là. Et non, ils vont atterrir sur Central Park. Bon, à partir du moment où ils atterrissent sur Central Park, on est à New York. Et c'est une idée que j'ai gardée d'autant plus facilement que c'est une ville que je connais relativement bien. Je dis relativement parce que j'y allais pas mal entre 2003 et 2013, et après, pour plein de raisons, j'y suis allée plus rarement. Mais en tout cas, je me sentais capable d'écrire des choses sur New York sans paraître complètement à côté de la plaque. Et puis, il se trouve aussi que c'est une ville avec laquelle j'ai une très très forte connexion amicalo-spirituello-amoureuse, on va dire. Et du coup, j'ai voulu aussi raconter ce que c'était d'être en amour avec une ville, mais particulièrement du point de vue d'une personne qui n'en est pas originaire et qui décide d'y habiter. Avec bien sûr l'avantage que c'est intéressant d'avoir des extraterrestres qui ne sont pas de là, rencontrer une personne expatriée qui en fait n'est pas de là non plus, mais à des titres divers. Ça, je ne l'avais pas exactement anticipé, mais c'est ce qui s'est un peu déployé aussi dans le temps de l'écriture.
Alors, on va rester juste un peu sur New York, parce que justement, tu en parlais, il y a ce crash qui se passe. Alors, pour ceux et celles, mais là, c'est la majorité d'entre nous qui sont nés avant 2001, ça fait énormément écho. Ça fait mal maintenant, ce n'est plus le cas de la majorité des gens que je vois autour de moi. Pourquoi avoir fait justement de cette arrivée quelque chose qui a l'air de traumatisant, qui fait, alors c'est pas le but de l'histoire, mais qui fait écho pour des gens comme nous qui ont vécu le 11 septembre, qui s'en rappellent, et là finalement on reprend cette idée un peu traumatique à New York.
Alors après, moi je me suis pas dit tiens, je vais dramatiser le 11 septembre, parce que déjà ça a été fait 1500 fois, et puis je suis pas certain d'avoir eu des choses fascinantes à dire exactement sur ce sujet. Mais évidemment, dès lors que tu commences à faire du world building, il y a toujours ce « et si ». Bon, alors « et si les extraterrestres débarquent et écrasent Central Park ». J'aurais pu, comme beaucoup de fictions, me concentrer là-dessus. Et donc, on sait ce qui se passe. Enfin, je suis sûre que vous avez des images mentales, en fait. Les extraterrestres arrivent, des tanks déboulent, l'armée s'en occupe. Il y a des conflits de pouvoir entre les gentils militaires, les méchants militaires, mais globalement, c'est militaire, et c'est ça l'histoire. Et moi, ça m'ennuie de faire ça. Pas que ça soit pas intéressant, ça l'est probablement, mais on l'a beaucoup vu. Et du coup, je me disais, mais tiens, qu'est-ce qui se passe si on fait un roman de premier contact, mais qui n'est pas de premier contact, comme le nom du genre, mais de 156e contact, c'est-à-dire la 156e fois qu'on voit l'extraterrestre, est-ce qu'il sera devenu, devenu suffisamment familier ou familière, est-ce que ça reste un étranger, et si oui, à quel point? Et donc j'ai choisi de positionner mon action 15 ans après l'arrivée des extraterrestres. Ce qui, moi, m'a semblé beaucoup plus excitant, en fait. Mais j'aime beaucoup faire ça. C'est assez basique, d'ailleurs. C'est même un trick, quoi. Si les histoires que vous voyez vous embêtent, il faut s'en décaler géographiquement ou temporellement. Enfin, voilà. Et là, le moyen, c'était ça. Sachant que dans la séquence Hartman, il y avait déjà cette idée de dire on va prendre l'histoire bien classique de robots qui s'autonomisent, à la différence près que personne ne va mourir dans le processus et que ça va juste être une très longue lutte pénible dans un Sénat, quoi. Voilà. Mais à chaque fois, voilà, le petit pas de côté. Et évidemment, après, je suis quand même obligée de parler de ce qui s'est passé avant, de l'arrivée des extraterrestres. Et c'est pas tant qu'elle est traumatique, d'ailleurs, dans la description que j'en fais. Enfin, en tout cas, elle est mémorable. Parce qu'évidemment, un vaisseau extraterrestre débarque, vous vous en souvenez. Mais ça m'a permis, après, de mettre en tension aussi le moment où on s'ennuie, où on n'y pense plus. Et le pari que je fais dans la fiction, qui est qu'en fait, à un bout d'un moment, comme tout, on s'en lasse et il y a autre chose aux infos. Et du coup, qu'est-ce que les extraterrestres deviennent en fait à ce moment-là, quand ils ne sont plus à la une, quand ils ne sont plus au centre de l'attention, que ça fait 15 ans et qu'en fait ces gens vivent encore dans leur vieux vaisseau écrabouillé. En gros, quelle est l'histoire?
Alors d'ailleurs, donc tu as dit il/elle pour parler du corps des aliens. En fait, tu les décris très peu et on a du mal à les caractériser, à savoir à quoi ils ressemblent. Déjà, pourquoi ce choix?
Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir en fait à la genèse du bouquin. Quand j'ai commencé, un petit peu avant de commencer à écrire ce livre, j'écrivais en fait un autre roman, qui d'ailleurs est toujours en cours. Souhaitez-moi bon courage. Bon courage. Je ne m'en sors pas. Voilà, ce roman m'agace, mais passons. Et Antoine Mautier, qui est collaborateur de Jean-Marie Guater, donc aux éditions Guater, m'appelle et me dit « Bon, c'est sympa la séquence, mais c'était très long. Est-ce que tu ne voudrais pas refaire un livre dans l'esprit initial de la collection Rechute, qui était vraiment des plus petits livres avec une fiction, un essai, une interview ?» Et j'ai répondu ce que je réponds quasiment systématiquement dans ces cas-là. Vous le saurez hein, si jamais vous voulez qu'on bosse ensemble. Oui, si j'ai une idée. Voilà, parce que je me suis promis quand j'ai commencé à faire ça que je ne me forcerai jamais. Donc, ça dépend de ma capacité à avoir une idée intéressante. Et il s'est produit une chose alors, qui ne s'était jamais produite jusqu'alors, mais qui maintenant se reproduit, parce que je pense qu'à force d'en parler, mon corps et mon cerveau se disent « Ah, on fait ça maintenant, d'accord ?» J'ai fait un rêve. Et j'ai rêvé de l'histoire. Donc, je me suis réveillée à 3h du matin. Et littéralement, j'avais le truc, quoi. J'avais le dispositif et 2-3 phrases qui sont dans le livre tel quel, qui ont popé sur le téléphone. De « Il est en face de moi, il est différent. » Et en fait, toute la description, qu'on lira peut-être d'ailleurs tout à l'heure, consiste à dire « Bah oui, il est différent, mais pas tant. » Et ça vient de toute une intention de ma part, de jamais constituer la différence dans un autre avec un grand A, qui serait l'altérité radicale, mon faux jumeau dans ce miroir. En fait, je trouve ça très désagréable et en fait assez aliénant. Et puis, bon, il y a plein de trucs politiques assez crado aussi qui peuvent sortir de ça. Et donc, autant dans la séquence Hartman, le robot n'est pas notre autre avec un grand A. Et là, l'idée, c'est bah non, on ne va pas faire de cet extraterrestre l'autre avec un grand A. Et bah, j'ai essayé de m'en dépatouiller de plein de manières. En fait, il y a eu plein de choix d'écriture qui ont consolidé ou soutenu ça. Après, voilà, ce que j'ai réussi, je ne sais pas, parce que c'est quand même un alien, quoi. Donc, à un moment donné, il n'est littéralement pas de notre monde et ce n'est pas super évident. Je le genre au masculin. Après, je me réfugie aussi derrière l'idée que les humains, lui, le genre au masculin. Bon, il dit à un moment donné qu'il s'en fout. Il dit « Je ne comprends pas pourquoi vous mettez du genre partout, mais ok, d'accord, comme vous voulez, quoi. » Voilà. Mais... voilà, j'ai un tout petit peu travaillé là-dessus, mais pas tant. Parce que ça me semblait aussi presque une porte déjà ouverte, enfin, voilà, de dire « Ah, ça va être des aliens, du coup ils vont être non-genrés, du coup ils vont être mieux que nous. » Non, ils sont pas mieux que nous, ils sont ni mieux ni moins bien, c'est autant le bordel chez eux, juste pas tout à fait pareil. Quoi.
Voilà. Et c'est vrai que c'est assez différent de ton roman précédent, où il y avait cette réflexion sur les corps, notamment le corps du robot, le corps trans, le corps des deux héros était très défini. Et là, ben, tu as décidé, en tout cas, même les personnages principaux sont assez peu décrits. On sait qu'il y a deux personnages principaux humains, on va dire, qui est dans... Et peut-être que tu pourras nous en dire un peu plus. Donc, Ty Peterson, qui est cette femme lesbienne française, et Di André, qui est le héros, un peu, de la deuxième nouvelle, parce qu'il y a même une autre nouvelle pour accompagner la novella. Donc, pourquoi avoir fait justement aussi ces choix? Est-ce que tu as envie de sortir... des questionnements qui étaient présents dans la séquence ou...
J'ai pas du tout fait exprès. Je pense que j'étais occupée par d'autres choses. En fait, dans ce roman, il y a d'autres trucs. Il y a New York, déjà ça m'a fait bosser. Il y a la rencontre avec l'extraterrestre et tout le boulot sur la langue dont on parlera peut-être tout à l'heure. Il y a la question de l'expatriation et la question de la qualité des amitiés qu'on noue quand on ne partage pas la même langue maternelle. Donc ça, c'est tout ce qui peut se passer entre Ty et Di André. Ty est lesbienne et Di André est gay, donc il y a aussi cette particularité de la relation entre les gays et les lesbiennes et les amitiés particulières et singulières qui peuvent se nouer. Il y a Ty quand même qui a le cœur brisé, vaste sujet et c'est important. Voilà. Donc finalement, il y avait beaucoup de choses autres, on va dire, que juste « Oh mon Dieu, j'ai un corps » comme dans la séquence Hartman. Mais pour aussi une raison qui est que Ty, elle est, bon, ayant le cœur brisé, elle est complètement dissociée de son corps. Encore que, voilà, il y a une petite scène érotique que j'espère sympathique, mais voilà, vous me direz, ça c'est pour vendre, hein, bien sûr, oui, bien sûr. Voilà. du cul, voilà.
Bon. Ouais, alors, on reviendra, si tu veux, sur ces histoires-là.
On ne la lira pas.
Voilà. Y a-t-il des enfants dans la salle? Non. Et effectivement, on va revenir sur la langue, mais tu parlais juste des identités queer, justement, de tes personnages, et je trouve ça intéressant parce que tu n'as pas fait des personnalités qui ont... fondamentalement heureuses dans leur queeritude, c'est pas déjà, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'être heureux quand on est queer, au secours, mais non, c'est pas des des modèles de vertu et Tai a le cœur brisé, mais même la femme dont elle est amoureuse, c'est pas le modèle de vertu non plus, quoi.
Voilà, il y a plein de trucs, super question. La première chose, c'est que déjà, moi, je déteste faire des personnages qui soient des modèles de vertu. Après, je comprends, je comprends l'idée d'avoir des rôles positifs. Je suis demandeur, même à titre personnel, de ça. Mais ça génère tout un ensemble de textes qui, du coup, me semblent hyper bizarres. Je pense que vous avez tous lu ces trucs de... Et des fois, c'est même des mecs qui les écrivent, notamment des trucs féministes de... C'est des femmes, et du coup, elles se battent, et du coup, elles sont badass. Mais aussi, elles sont intelligentes, et elles sont belles, et... mais elles sont chiantes, en fait. Enfin, pitié, quoi. Enfin, alors oui, c'est bien qu'il y ait des femmes badass dans des romans féministes, mais... Enfin, moi, j'ai envie de parler de fêlures, de tout ce que je fais mal, de trucs hyper compliqués. Donc, il y avait ça. Et puis aussi... j'aimais bien, et ça je l'ai fait consciemment, l'idée d'aller voir des mauvais queers. Voilà. Et parce que ça parle aussi d'un endroit de réflexion perso, de pas uniquement me dire « Ah, bah, je vais faire un bouquin pour ma commu, et il y aura des super role models, comme on dit en anglais, et ça va être trop plaisant », ce qui était un peu peut-être le cas de la séquence Hartman, parce que moi-même j'avais besoin de ça dans le temps de l'écriture. Là, je me dis « Je vais prendre une lesbienne, qui n'est pas lesbienne en fait en plus depuis très longtemps, ou elle ne l'a pas réalisée depuis hyper longtemps ». Elle aime pas dire qu'elle est lesbienne parce qu'elle est chiante et ça la gonfle, et en même temps elle aime les femmes, puis en même temps les femmes qu'elle rencontre ça marche pas, et puis Diandré il est gay, il est heureux d'être gay, mais en même temps il se fait chier dans son couple et du coup voilà, c'est ces gens en fait qui sont asymétriques et qui sont pas des bons poster boy et poster girl, quoi, qui sont juste hyper fêlés et fracassés et qui en même temps font plein de choses très bien. Et c'est aussi ça l'idée, c'est de présenter des personnages quand même assez malmené, mais qui arrive en dépit de tout, parce que ce monde déconne quand même sévèrement, à maintenir ou à bâtir une forme de lien. Bon, après, je sais pas si je vous choque en fait en disant ça, je me rends pas compte, mais peut-être que la meilleure manière de faire un bouquin avec des rôles appréciables queer, c'est de pas se le dire, quoi. Voilà. Si je commence à me mettre à la table en me disant ah, alors là, il faut que j'écrive un personnage qui va inspirer j'en sais rien, moi, tous les mecs trans gays, enfin, qu'est-ce que je vais écrire de valable ? J'ai pas la prétention de faire ça. Voilà.
Et donc, comme je disais, si tu peux nous en parler plus, si c'est un roman écrit avec deux points de vue, celui de Tai Petersen, enfin le livre, et celui avec Dodie André.
Ah oui, donc j'y viens, pardon, oui, il y avait une deuxième partie à ta question.
Une question à l'image.
Ouais, mais du coup, ça rejoint donc Dodie André, le gay qui est dans son couple. Enfin, d'ailleurs, il est pas en couple au début, il est dans la nouvelle. Ça aussi, c'est un accident d'écriture, enfin, un accident. Même pas un accident, mais c'est fonction en fait de la manière dont le livre s'est écrit, qui est qu'à la base, donc il y avait cette commande de faire un petit roman, une novella même, un essai et une interview. Et au début, justement, moi, comme c'était quand même une commande, je demande à Antoine Mottier, tu veux combien de signes ? Oh, une novella, 80 000. Bon, d'accord, 80 000, très bien. Je fais 100 000 parce que je suis incapable d'écrire court, et je me dis, je vais me faire défoncer, il va falloir que je coupe. Et je lui dis, du coup, on fait quoi ? Il me dit, non, mais en fait, il n'y a plus de limite, vas-y. Je dis, d'accord. Il me dit, en fait, il faut que tu rallonges. Et donc, Jean-Marie Guater a dit, non, c'est trop court. Il faudrait savoir, vous m'aviez dit 80 000 signes, bon, d'accord. Et je dis, ok, je vais m'y remettre. Et je renvoie un mail en disant, voilà, la novella, qui du coup n'est plus tellement une novella, parce que 200 000 signes, c'est plus trop. Enfin, c'est plus un roman, quoi. Et ils me font, non, mais en fait, fais une nouvelle en plus. Ça va s'arrêter quand ? C'est à chaque fois, la pompe se réamorcée. Et j'avais plein d'idées, mais Antoine Mottier n'était pas fan et il m'a dit, mais tu sais ce que tu devrais faire ? Tu devrais écrire une nouvelle sur Diandre. Là, je dis, mais écoute, mais qu'est-ce que je vais raconter sur ce mec ? Enfin, je voyais pas, quoi. Et alors, en plus, j'avais un peu un truc de légitimité parce que c'est un homme afro-descendant, gay. Je me dis, waouh, états-unien, ça faisait beaucoup de trucs quand même, on va dire, où j'avais un peu peur aussi de ce que j'allais pouvoir dire. Et bon, finalement, pareil, 3 jours plus tard, l'idée a popé et c'est venu. Et ça fait un texte assez différent des Igialogues eux-mêmes et qui permettent d'investir des thèmes assez différents. Puisque là, dans les Igialogues, on est 15 ans après l'arrivée des extraterrestres. Et dans Suntown, on est du coup 25 ans après l'arrivée des extraterrestres. Donc ce pauvre extraterrestre commence à être un peu vieux. Voilà. Et ça pose des questions aussi de comment on vieillit plus ou moins avec grâce, tout particulièrement quand on n'est pas chez soi. Voilà.
On va enfin parler de l'écriture parce que c'est aussi, je sais pas si on peut montrer sur l'écran.
Ah oui.
Tu as inventé tout un alphabet, toute une écriture et une façon de le dire. Pourquoi cette idée, se dire je vais inventer les écritures, des dialogues, des façons de l'écrire. Alors ça, c'est l'écriture tapée, il y a aussi une écriture manuscrite, et il y a même des formes de poésie qui vont apparaître. Voilà. Pourquoi ce choix-là? Et comment tu l'as fait?
Alors, c'est quand même le point, on va dire, peut-être le plus caractéristique de ce livre, en fait. Enfin, c'était pas du tout prévu comme ça, mais c'est devenu le centre. Moi, j'ai tendance à écrire souvent de manière chronologique. Enfin, alors, ça dépend. Des fois, je peux faire du collage. Mais là, en l'occurrence, j'avais besoin, pour faire mon world building, de suivre, d'écrire le premier chapitre où, en fait, Thaï va au travail et de la faire rentrer dans le centre et de l'accompagner et de décrire ce qu'elle voit et de se dire, OK, elle va faire son dialogue. Et du coup, j'essaye de construire comme ça un peu une anticipation. Et puis arrive le moment de l'e-dialogue, donc le moment où les deux personnages se retrouvent face à face pour parler, hein, sachant qu'ils sont bien entendu écoutés, observés. C'est un dispositif ethnographique, expérimental, très contraignant, très bizarre. Et puis là, je me dis, oui, l'extraterrestre a dû apprendre à parler peut-être français depuis le temps, parce qu'elle est française, elle lui a appris, d'accord. Puis là, je me dis, mais quand même, elle étudie forcément leur langue, alors du coup, elle va répondre dans la langue. Je fais, OK, mais elle dit comment? Ah, OK, bon, j'ai des sons qui me viennent, OK, j'écris ça. Et puis, je me suis dit, mais là, il va falloir que j'invente. Enfin, je peux pas, en fait. Là, je suis obligée d'inventer comment ces gens pensent, comment ils réfléchissent. Et du coup, des heures, voilà, des tableaux, des mots, du vocabulaire, de la conjugaison. Et puis, à chaque fois que j'avais un besoin, j'allais voir mes petits tableaux, j'inventais des manières de dire, et c'était des prétextes pour faire du métadiscours sur la langue, du type, ce mot-là est un homonyme de tel autre, donc ça crée une incompréhension, ou elle se trompe et du coup, elle se sent impolie de se tromper. Enfin, en fait, toutes ces micro-expériences inframinces, là, linguistiques, que vous avez tous et toutes vécues probablement, même quand on ne parle pas très bien une langue, voire même surtout quand on la parle mal, en fait. Et voilà, tous ces petits écarts. Et assez rapidement, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce serait pas trop bien d'avoir comment ils écrivent, et donc la typo. Enfin, forcément, j'avais trop envie, parce que je suis graphiste, c'est un peu mon truc. Et assez rapidement, il s'est passé cette chose, c'est-à-dire qu'il y a la version latinisée au centre qui permet de prononcer le dialogue comme on le souhaite, à peu près, même s'il y a une prononciation officielle. À droite, une colonne avec la traduction, et même deux traductions, la vraie traduction, ou la traduction la plus officielle, et entre crochets, la traduction littérale pour qu'on comprenne comment ils parlent. Et à gauche, du coup, les caractères extraterrestres. Et je me suis mis à me faire tout un tas d'esquisses, de dessins pour trouver les caractères. Et j'ai utilisé un petit logiciel qui s'appelle Glyphs pour pouvoir taper ma langue dans mon traitement de texte. Et puis là, au bout d'un moment, je me suis dit, dessinateur de caractères, c'est un métier, effectivement, car c'est très moche ce que j'ai fait quand même. Et donc là, j'ai appelé une personne qui ne peut pas être là ce soir, mais qui a été très importante pour le projet, qui est Vivien Gors, donc qui est un graphiste et dessinateur de caractères toulousain avec le studio Pépite, pour ceux et celles à qui ça parle. Et je lui ai dit, est-ce que ça ne te dirait pas de faire une fonte extraterrestre? Il a dit, bien sûr, voilà. Et donc, il a redessiné de manière beaucoup plus... Je ne vais même pas dire carré, mais voilà, de manière beaucoup plus professionnelle et claire, ces caractères, avec en plus tout un travail. C'est-à-dire que lui m'a posé des questions qui m'ont fait aussi avancer dans la recherche en me disant, mais il faut que tu me dises comment ce peuple écrit, il faut que tu me dises comment ils ont mécanisé leur écriture. Enfin, je ne peux pas faire une fonte si je n'ai pas toute cette histoire. Donc, ça m'a forcé aussi à faire du world building. Et donc, il y a un codex à la fin du livre, avec le vocabulaire, la prononciation, quelques petites leçons. Et comme c'était pas assez, et après, on a fait un site. Voilà. Non, mais taux de geekerie, mais absolu. Voilà. Et donc, ce site... Alors, moi, à la base, j'avais vu passer un site d'un projet. Alors, rien à voir avec le sujet qui nous préoccupe, c'est CryptoKit, qui est un site de glyphes sur les crypto-monnaies pour aider à comprendre les crypto-monnaies. Voilà. Ça a été financé par la Head, l'école d'art de design à Genève. Et j'avais vu que le site était libre, enfin voilà, open source. Et donc j'ai demandé à un ami directeur de la recherche, Anthony Mazur, là-bas. Je lui ai dit, c'est open source, tu penses que je peux l'utiliser? Il m'a dit oui, appelle Alexandre Texier qui a fait le site. Et j'appelle Alexandre Texier, donc le développeur du site. Et il dit, mais j'adore les xénolangues, c'est ma passion, c'est ce que je fais à côté. Je suis alors là quand même... Voilà, le hasard est quand même génial, voilà. Et donc, grâce à Alexandre Texier, on a ce site dans lequel on a... En fait, c'est un site qui est un bout du world building, en fait, parce que ça se présente comme le site officiel du Sunjuice. Donc, vous pouvez apprendre à dire bonjour, Enfin, si vous voulez, on parlera ensemble. Voilà. Il y a tout. Il y a les conjugaisons, il y a les pronoms. Il y a aussi cette partie qui est très, très bien. Hop, là, enfin, que moi j'aime beaucoup, où on peut entendre la prononciation de tous les caractères. Enfin, voilà, enfin, on a bien rigolé, quoi. Voilà.
Ben, si tu veux, je te propose qu'on lise un extrait, peut-être, pour entendre le Sundouze.
Le Sundouze, excuse-moi.
Donc on a compris que c'est un cours d'apprentissage.
Alors la question aussi, non, parce que on parle, enfin moi en plus je suis intarissable, faut vraiment que je suis trop bavarde, c'est pas possible. En vrai, interrompez-nous en fait, et peut-être aussi, je sais pas, vous avez envie d'entendre des trucs après ce qu'on s'est dit. Ouais. Après je me dis, on peut lire des choses où il y a du Sundouze, on peut lire des choses où il y en a pas.
Alors est-ce que vous, j'hésitais entre deux morceaux, je t'avoue, pour te faire lire, entre. Est-ce que vous préférez un petit bout de Sundouze d'Alien ou un petit bout de la question du désir, de, en tout cas de qui est, enfin de l'amour qu'a ton personnage principal pour les femmes queer, pour les femmes plus âgées, et notamment parce qu'il y a aussi une question qui va venir sur cette question du désir qui semble, parce que c'est pas des bons queer, mais c'est peut-être aussi pas forcément des queer qu'on voit partout, et c'est là-dessus assez intéressant dans la fiction. Alors, la version A, levez la main. La version B,
t'as plus vendu la B en même temps.
Mais la version A, c'est en même temps, c'est est-ce que vous voulez entendre ? Ou alors juste qu'ils nous lisent des passages en son news. Hein ? Allez, les deux. Les deux. Ok,
alors, on va faire un truc un peu bizarre, parce que comme Déborah a pas beaucoup de voix, et
c'est,
voilà, pauvre. Pauvre de toi. On peut faire ce truc bizarre qui consiste à, moi je lis la voix interne de Thaï et tu fais sa voix à elle et je fais l'extraterrestre. Ça va demander un peu de flex au niveau mental, mais non, trop bizarre.
Je vais le lire sinon, allez.
Allez, tu le lis. Okay, bon.
J'ai fait cours ce matin, j'ai réussi. L'individu se tenait face à moi. Il attendait. Il ne disait rien. Me laissait toujours de l'espace. Que savais-je de lui ? Il n'allait pas nu. Il était vêtu de fibres. Des vêtements simples au drapé brut, d'une toile que j'aurais rapprochée du lin. Son corps, et cela avait été observé, était composé de tout ce qui était nécessaire. Une colonne, pour le tenir droit, des yeux pour voir, des oreilles pour trier les vibrations de l'air, un nez pour humer, une cervelle pour compliquer tout ce que ses parties pouvaient transmettre de sensations brutes, un torse voilé de ce pseudo-lin, et sans doute un pantalon que je ne pouvais pas voir, ou que je ne pouvais voir que lorsqu'il se levait de sa cabine, ce qui était rare. Sous le tissu, une surface de peau, un assemblage, là aussi connu, étudié depuis quelques années, un ensemble de tubes pour évacuer ce qui devait l'être. Aussi de quoi se dupliquer, de quoi exulter quand il le fallait, entre les jambes, et sans doute partout ailleurs. Beaucoup de poils, certains utiles, la plupart dispensables, et pour l'essentiel concentrés au sommet de la tête. Il s'appelait Akarnasasari. Et j'avais encore du mal à savoir s'il s'agissait d'un nom de famille, d'un prénom élevé au rang de patronyme, d'une autre manière de nommer un corps. J'avais écarté ces éléments de compréhension au profit d'autres. Akarnasasari, toutefois, paraissait terriblement humain. Mais il ne l'était pas, ce qui motivait ma présence, la sienne, dans nos cabines respectives. Il semblait fatigué. Il me salua.
« Bonjour, Thaï. »
Il parlait en français. Et je savais que le reste de l'entretien devait se dérouler ainsi. Quand je l'avais rencontré, Akarnasasari avait appris l'anglais, comme tous les membres de son groupe, auprès des militaires décidés à élucider au plus vite les intentions de ces intrus. J'avais utilisé ce bagage commun pour lui apprendre sa seconde langue terrienne, et cela avait occupé nos toutes premières séances. Il était avide de connaissances, et surtout d'occupation. Il m'avait rapidement expliqué que leur atterrissage l'avait en quelque sorte laissé au chômage technique. Cet astronaute désœuvré s'était donc plongé, à défaut d'un autre exutoire, dans l'apprentissage d'une langue dont l'usage était voué à rester très limité. Le parfum de ma leçon gravitait encore dans mon esprit. Je lui répondis donc en Sundouze, ma bonne volonté soudain ostentatoire. « Vans vras te sasade, Akarnasasari ?»«
Mama, vide. »
Ah oui, pardon.
Alors,
Oui, vous voulez peut-être la traduction quand même.
Moi, je suis dans mon monde, tu sais.
« Comment vas-tu, Akarnasasari ?» ou plus exactement, la traduction littérale était « Comment portes-tu ton corps ?»«
Mama vide. Bien, bien. Et toi ?»«
Vradisamaadma. Je vais bien. » ou plus littéralement, « Je porte bien mon corps. » Il eut un petit rire, comme à contre-cœur, sembla hésiter. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Je savais que j'avais commis une faute.
« Thaï, neandesasina. Vradisamaadma. »
détails, permets-moi de te corriger. Je vais bien. Je fais la trad en même temps. Je soupirais déprimé d'avoir buté sur une formule de politesse aussi élémentaire. Voilà. Voilà pour la partie langue. Et ce qui est hyper intéressant, et je pense qu'on pourra en parler, ou ton auditeur, à mon avis, ça a dû s'arracher les yeux sur le triple colonnage du bouquin. Parce que... et même le double colonnage, puisque ça parle anglais, ça parle français. Et mais...
J'ai rencontré le maquettiste il n'y a pas longtemps qui m'a promis qu'il n'avait pas eu d'envie de meurtre. Mais je ne l'ai pas tellement cru, parce que vraiment... c'est compliqué, surtout que voilà, enfin, on pouvait pas changer le format du livre et la largeur disponible. Enfin voilà, on pouvait avoir 3 colonnes, mais 4, ça aurait été vraiment sport, enfin c'est même impossible. Donc il y a eu des petites pirouettes, voilà. Et après, petit détail peut-être, enfin tu allais peut-être vers ça, je sais pas, mais il y a un triple colonnage pour le Sunjuz, mais il y a aussi un double colonnage pour l'anglais, parce que j'avais pas envie d'écrire en français ce qui se racontait en anglais, parce que l'anglais est pas moins ou plus une langue étrangère que le Sunjuz. Donc l'idée aussi, c'était de travailler tous ces espaces de traduction avec une langue que personne ne connaît, parce qu'elle est fictive, évidemment, mais aussi avec une langue que tout le monde, enfin en tout cas beaucoup de gens connaissent très bien, au moins dans ses rudiments, pour faire sentir aussi ces écarts et ces espèces de tensions entre version originale et traduction. Voilà.
Donc ce qui va rendre une chose assez intéressante, c'est de présenter aussi l'anglais comme une langue réellement étrangère au français. Chose qu'on oublie parfois quand on est dans des milieux académiques où l'anglais est devenu presque obligatoire si on veut étudier. Je vais, avant qu'on passe au passage du désir, justement, on va rester sur l'alien. Je vends vachement bien la suite. Hein. J'aimerais juste savoir, ta première nouvelle est sur taille. La deuxième, on voit ce qui se passe dans la tête de Diandré. Pourquoi est-ce qu'on voit jamais ce qui se passe dans la tête d'Akarna Sassari?
Ça a trait, en fait... encore une fois, la manière dont le livre a été écrit. Moi, vraiment, je commence à écrire ce livre. Je pense que j'écris un livre très court et je suis persuadée d'écrire un one-shot. Et il s'est passé 2 choses. La première, c'est qu'à la fin, je me suis dit « Oh là là, j'ai inventé une langue. » Du coup, c'est un peu bête quand même parce que on a envie quand même de continuer. Et puis, en fait, à force de faire des collaborations aussi, il y a des idées qui pointent le bout de leur nez. C'est-à-dire, Alexandre Texier m'a dit « Dis donc, quand on fait une typo, on fait les chiffres aussi. Et comment ils font des maths, ces gens ?» J'étais là « Oh là là !» Sachant que ce n'est pas du tout ma spécialité. Je me disais « Oui, c'est une question juste. Enfin, comment ils comptent, c'est hyper important. Enfin, » Et là, je me suis dit « Ah, mais il faudrait faire un truc juste sur ça. » Et en fait, après, j'ai eu des envies de géographie. Enfin, bon. Et du coup, sans avoir voulu créer un univers étendu, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait ce potentiel-là. Et après, il se trouve aussi que ce livre est sorti en novembre, donc que des gens l'ont lu là, à la fin de l'année dernière. Et alors, je ne dis pas du tout ça pour vous acheter le livre, mais les retours sont plutôt bons à une critique près qui est assez récurrente de « mais c'est beaucoup trop court, on a envie de savoir les autres gens, les autres personnages, la suite ». Donc moi, j'avais un peu mon envie d'autres histoires. Là, il y a en plus des gens qui me disent « non mais oui, carrément, vas-y ». Donc, il n'y a rien sur Akarna Sassari pour le moment, parce qu'en fait, oui, puis en plus c'est terrible parce que, mais ça, à partir du moment où tu te dis ce serait bien d'avoir un truc sur Akarna Sassari, t'y penses, tu vois, tu prends le bus, tu fais ah ouais, mais alors, du coup il y aurait une histoire avec lui, du coup il pourrait avoir ça, machin, puis voilà, c'est parti. Là. Voilà.
Donc vous avez compris quand vous lisez la suite d'un roman, demandez et ce personnage, sinon qu'est-ce qui devient? Voilà, mais Martial, non, bref, c'est vrai. Et est-ce que, promis, on va aller lire le deuxième morceau, mais il y a une question très importante qui est celle du dispositif. Alors, dans ton livre précédent, c'était la question était portée sur aller chercher ailleurs. Les humains partaient dans une autre galaxie. Il y avait le vaisseau spatial. Et là, on reste sur Terre et c'est une vitre qui a quand même quelque chose qui sépare les aliens des humains. Pourquoi avoir voulu mettre, et tu en parles, enfin, vous avez sans doute senti, il en parle, tu en parles beaucoup. Tu en es écouté, on est entendu, on est dans un dispositif très présent. Pourquoi ce choix de peut-être aller moins dans l'hypertechnologie? Mais de rester dans quelque chose de grande surveillance.
Alors, déjà, moi, je suis pas, enfin voilà, j'ai pas de formation, j'ai pas fait de sciences dures beaucoup, voire pas du tout, enfin ou un niveau piteux de lycée quoi. Je suis pas ingénieur, donc j'ai pas du tout le profil d'un écrivain de hard SF en fait. Voilà, je peux me documenter, mais j'ai pas ce truc. Alors, je suis fasciné par les technologies, j'aime bien geeker, ça m'intéresse, mais je sais pas comment dire, je saurais pas faire un truc. Où la technologie serait nécessairement au centre. Après, ça vient aussi de mes recherches et moi de mes positionnements, que ça soit en recherche en design et en recherche tout court dans les humanités numériques. C'est
ce truc de l'innovation à tout prix et de la technique qui change tout, je trouve ça ennuyeux et je trouve ça redondant. Et je préfère être, comment dirais-je, sur un questionnement des technologies qui existent déjà, ou questionner la manière dont des nouvelles technologies s'articulent à des moins nouvelles ou des très anciennes. J'aime bien faire de l'archéologie des médias. Et j'aime bien aussi investir des technologies apparemment pas innovantes, comme l'étang. Enfin, je sais pas, ça, par exemple, c'est du high-tech, en fait. C'est incroyable. Cet objet est incroyable. C'est-à-dire qu'il faut... Enfin, c'est un degré d'aboutissement industriel qui est juste ouf, en fait. Et personne va dire que c'est de la high-tech. Et je trouve très intéressant de décaler ce qu'on pense comme étant de la high-tech. Le téléphone, c'est high-tech. Demain, il y a un effondrement, personne ne sait faire marcher un téléphone. On ne sait pas le refaire. Enfin, où il nous faudrait énormément de temps. Enfin, je trouve. Après, c'est vraiment juste une opinion. Donc, voilà, il y a cet aspect-là, moi, qui m'amène à regarder les choses comme ça. Donc, je dis souvent que je fais de la soft SF. C'est... T'as l'impression qu'il n'y a pas de SF, d'ailleurs, quand on a lu au mot à la bouche là, un petit bout de la nouvelle. C'est au fait, il y a des aliens dedans. Voilà, il faut presque le signaler, quoi, parce que ce n'est pas évident tout de suite. Et je trouve assez chouette, moi, c'est ce qui m'éclate, de faire de la SF comme certains font du fantastique. C'est-à-dire que tu construis un univers très analogue au tien et tu fais dérailler un tout petit truc. Et c'est ça qui va amener la saveur ou la substance du texte. Mais je ne sais pas si c'était ta question, en fait.
Si,
c'est à peu près...
Bon, mes questions sont là que pour te faire parler, hein, donc ça marche, ça fonctionne, c'est bon. Donc voilà. Et tes personnages, dans leur dit André comme taille, sont très mélancoliques. On a l'impression qu'il y a une très forte mélancolie dans le roman, qui va avec l'image de New York. Enfin, c'est pas la ville la plus fun du monde. Enfin, ça peut l'être, mais ça l'est plus. Et notamment, il y a toute une question du désir. Il y a une scène de sexualité explicite, mais beaucoup moins qu'il y en avait dans la séquence. Déjà. Pourquoi avoir cette question, finalement, d'un désir très peu assumé, parfois, et dans cette mélancolie-là? Et on va lire l'extrait.
Je trouve que c'est aussi... Alors c'est... Bon, pareil, je vais faire des généralités. J'espère que vous ne voudrez pas trop, surtout si vous êtes, si vous identifiez comme queer. Bon, il y a plein de trucs, une très belle littérature queer là, qui explose depuis un certain nombre d'années. Il y a même des textes historiques qui sont incroyables. Mais c'est intéressant souvent que la queerness soit localisée du côté de la sexualité. Alors bien entendu, ce n'est pas la faute des queers, hein, c'est aussi la manière dont une société hétéronormative les positionne. C'est aussi des clichés lesbophobes, homophobes qui font des personnes LGBT, des personnes qui seraient obsédées par le sexe. Encore pire quand les personnes sont bisexuelles, alors là le cliché est quasiment doublé. Donc il y a cette association très forte. En même temps, oui, enfin, les milieux queers ou les rapports ou les relations queers sont des lieux où on repense la sexualité et c'est super. Mais du coup, moi, il me manque un peu l'abstinence queer, quoi. Voilà. Voir le désert sexuel queer. Voilà, ça. Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent là-dessus? Moi, évidemment, c'est mon expérience, donc j'ai eu envie d'en parler. Et de dire, en fait, c'était aussi, je ne sais pas, étant queer, voilà, on m'invite à plein de trucs super cool, des réunions sexpo, des trucs en non-mixité où on parle de sexe, c'est trop bien. Là, ouais, mais en fait, est-ce que quelqu'un, à un moment donné, va nommer le truc que des fois tu baisses pas dans la vie pendant super longtemps, c'est hyper relou, ça fait souffrir, c'est dur, et du coup, qu'est-ce qu'elle devient, ton identité de genre, de sexe, de tout ce que tu veux, enfin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, dit André n'est pas le plus abstinent des deux, taille plutôt, mais je trouvais aussi intéressant de dire, ouais, mais elle a juste pas de partenaire, mais elle a une sexualité, en fait. Dans son désir, dans ce qu'elle se raconte, dans ce qu'elle fait, elle a des pratiques sexuelles. Et je trouvais hyper intéressant d'aller voir ça. Après, je suis sûr, après la rencontre, vous allez me dire « Ah, mais attends, il y a tel roman, tel truc, telle nouvelle. » C'est sûr, il y en a. Mais il n'y en avait pas assez à mon goût. Voilà. Et la mélancolie, même réponse. C'est-à-dire que je suis mélancolique, j'imagine. Enfin, je sais pas.
c'est à toi de me le dire.
Mais c'est aussi contre New York, tu vois, ce truc de « Ah, New York, c'est trop bien, c'est trop super. » Oui, c'est une super ville, mais c'est une ville difficile, en fait. C'est âpre, un peu. Et l'expérience de l'expatriation, si vous l'avez vécue, alors évidemment, c'est sans commune mesure avec une expérience de déracinement, de migration. Enfin voilà, on va garder les choses au bon endroit. Mais ça peut être une expérience quand même qui est, je dirais même pas dure, mais qui est intense. Voilà. Et du coup, la mélancolie, elle peut venir de là.
Tu peux nous lire un deuxième extrait. Et après, je vous propose peut-être d'ouvrir aux questions. Non, si vous voulez pas. Vous êtes prisonnier, désolé.
Il était tôt encore, et seule l'absence de crépuscule laissait entrevoir que nous n'étions pas encore tout à fait en hiver. je parcourus la ville selon le chemin familier. Je pensais à Marcia, dans le bus du retour, tandis qu'il traçait sa route. Selon les moments, selon un rythme aussi prévisible qu'une alternance entre la nuit et le jour, je me sentais différente. Les bonjours, je me disais qu'elle ne m'avait pas tout dit, et je passais à autre chose. Les autres jours, qui étaient l'envers des premiers, je me disais qu'elle avait menti, et je ne pensais qu'à me cogner la tête contre les murs. J'écrivais, c'était vrai, et il avait fallu que Di André me le rappelle. Des essais principalement, mais dans lesquels le récit se taillait toujours une place de choix, car j'aimais les anecdotes. En ce qui concernait l'imaginaire, l'amour était tout à la fois le poison et le remède. Avec Marcia, j'avais tout imaginé, car j'avais tout voulu. Et à la fois, cette femme, qui n'était qu'une femme, avait réussi à tuer mon intérêt pour toutes celles qui n'étaient pas elle. J'avais montré sa photo à des amis, à Di André. On m'avait dit « Oui, elle est jolie, c'est vrai, enfin, il y en aura d'autres. » Et je savais que ni lui, ni les autres amis ne la voyaient vraiment. Marcia, effectivement, n'était pas la plus jolie, ou plutôt, elle l'avait été, et à présent, elle devenait une vieille belle. Mais c'était cela qui m'avait plu. 10 ans plus tôt, je ne l'aurais pas regardée. Mais maintenant qu'elle commençait à douter, qu'elle était, selon ses propres mots, tapée, là, elle pouvait commencer à m'émouvoir. Des lesbiennes âgées, des belles butches qui portaient fièrement leurs casques de cheveux gris, j'en connaissais, et il me semblait que les affres du temps les laissaient de marbre. Pour les femmes, dont j'étais, l'histoire était différente, et elle l'était aussi pour Marcia. Pour elle, le temps était un outrage, et je voyais bien par quels artifices elle s'entêtait à lutter. La veste en cuir de jeune fille, le rouge à lèvres en couche épaisse, la coquetterie des petits gestes. Je m'apprêtais à l'aimer comme ça, ridée, fanée, tapée, ça m'allait. Peut-être parce que déjà, ma propre trentaine se tassait avec vigueur, et ses cheveux résistants qui s'échappaient de ma queue de cheval se mettaient à griser. Il me semblait qu'aimer cette femme revenait à accepter de rejoindre sa temporalité, et je m'étais laissé aller. Chaque jour, je me reprochais d'avoir commis une bien banale erreur, en choisissant de me souvenir que j'étais vivante.
Merci. Donc on a l'apparition de Marcia qui est donc est la personne qui brise le cœur. Donc on voit qu'il y a plusieurs histoires qui se mêlent, mais comme on veut pas spoiler non plus, je vous propose d'ouvrir les questions, sauf si tu veux. On continue.
Moi je perds toute notion du temps quand je suis ici, donc voilà.
Ou alors s'il y a des réactions sur l'extrait qui est lu, franchement allez-y, ça m'évite de parler. Merci. J'oublie d'avis. Donc, au-delà du désir et pour éviter de spoiler, je te propose qu'on aille un peu. Il y a un essai et il y a plein de références parce que c'est un livre bourré de références. Alors, on a envie de demander déjà quel fan de SF es-tu, hein, parce que franchement, mais alors, j'en suis une personne très fan de SF et je les avais pas tout vues. Alors, mais oui. Donc, il y a un petit référence. Genre, vous pourrez retrouver cette histoire dans quel fan de SF es-tu déjà. Et aussi, pourquoi avoir besoin d'en parler dans les échanges, d'avoir voulu parler de tout ce qui est dystopie, uchronie, éthique, d'expliquer ce rapport que tu as avec la SF. Donc, est-ce que tu peux nous en dire rapidement quelques mots?
Alors, dans l'ordre, je suis un mauvais fan de SF. En fait, il a fallu que j'en écrive et que j'arrive dans des festivals pour me dire « Oh mon Dieu, je suis complètement en retard et je n'ai pas de culture littéraire de ce milieu, ou très peu. » Enfin, vraiment, moi, je n'ai pas une grosse culture littéraire de SF. Cinématographique un peu plus, mais je suis pas du tout aussi spécialiste que bien des gens. Et alors en plus, dans les festivals de SF, c'est terrible quoi. Enfin, vous rencontrez des gens qui sont extra érudits et érudits. Enfin, donc pour le coup, moi j'aborde pas la SF en me disant « Ah, je vais écrire de la super SF parce que je connais plein de trucs ». C'est même plutôt le contraire. Et quand j'écrivais la séquence Hartman par exemple, je m'étais dit « Je vais rien lire ». Parce que si je lis quelque chose, je vais me dire que ça a déjà été fait, je vais m'arrêter d'écrire. Donc, je me suis dit, pour au pire, j'écris des trucs qui ont déjà été faits et c'est pas grave. Après, dans l'essai, il y a tout un ensemble de références qui, moi, me tenaient à cœur et qui sont des références assumées. Il y en a au moins 3 qui ont été très importantes pour les Igéologues. Donc, la première, assez évidente, c'est le film « Premier contact » de Denis Villeneuve. Où en fait, bon voilà, en gros, j'ai écrit l'envers de ce film. Voilà, parce que Denis Villeneuve, Premier Contact, c'est apprendre la langue d'extraterrestres qui ont un système de communication et de graphie complètement, alors très distant du nôtre, et donc et en plus qui ont une physicalité très différente de la nôtre. Et moi, je me disais, tiens, ce serait marrant de faire la même histoire, mais avec des gens qui nous ressemblent énormément, en fait, et de voir ce que ça change. Parce que c'est aussi une illusion, hein. On se ressemblait, on se dit, ah, on est pareil, en fait, peut-être pas tant que ça. Donc il y a ce film-là, avec en plus la frustration de... on voit les 10 premiers jours de l'invasion, il y a des militaires, enfin voilà. Bon, ça, j'avoue, c'est pas la partie du film que j'ai le plus aimé, même si c'est plutôt un bon film à mon sens. Après, il y a une autre série qui s'appelle Counterpart, qui est trop bien. Genre, si vous avez jamais aimé ça, voilà. Moi, j'adore les séries, enfin, certaines séries que j'adore. Vous pouvez être sûr que je vais les adorer quand elles ont que 2 saisons. Bon, en général, c'est annulé au moment où ça devient en plus hyper bien, voilà. Donc, Counterpart, c'est l'une d'elles. En gros, c'est une série où, suite à une manipulation scientifique, Berlin, enfin, le monde plutôt, se duplique. Il y a un monde parallèle qui apparaît. Et le point de contact est à Berlin. C'est trop bien. Et il y a des passages entre les deux. Et du coup, bah, en fait, si cette chose se produisait maintenant, bah, vous partiriez de Terra Nova. Il y aurait le monde qui commencerait à partir de là. Et vous auriez votre doppelganger dans le monde parallèle. Et qui ferait des choses très différentes en vertu du principe du battement d'aile de papillon. Et le plus intéressant dans la série, c'est comment les deux mondes se parlent. Donc là, pour le coup, référence assumée. Et la troisième, c'est un bouquin que Jules David, présent dans cette salle, m'a offert, qui s'appelle « Projet Dernière Chance », dans lequel aussi un homme se retrouve dans une mission spatiale pour sauver la Terre. Bon, je passe sur les détails. Bon, pour le coup, c'est assez classique là-dessus. Un mec qui va sauver l'humanité, blabla, tout seul dans sa capsule, passons. Bon, il y avait une meuf et un mec noir, mais il meurt au début. Enfin, voyez le genre, voilà. Enfin, dans mon souvenir, c'est comme ça. Mais fait quand même intéressant, il rencontre un extraterrestre et doit déployer aussi là, tout un tas de stratégies pour apprendre à communiquer. Donc moi, j'avais vraiment tout ce bagage-là. Et l'essai est sur ça aussi, sur cette figure de l'autre qui est derrière une vitre. Pour plein de raisons, soit parce que c'est un extraterrestre, il ne faudrait pas qu'il me contamine, soit parce que je suis en prison et qu'on vient me voir dans un parloir, soit parce que c'est le Covid et il y a une vide pour ne pas se contaminer aussi, soit parce que, je ne sais rien, c'est la poste, c'est les années 80, il y a des hygiaphones, enfin, tous ces trucs-là, moi, m'obsèdent, et du coup, le but de l'essai, c'était de mettre tout ça en question. Et dans l'interview, c'est plus sur les thèmes que tu évoquais, utopie, dystopie, et conversation sur... les process d'écriture, voilà. Donc c'est un peu moins théorique peut-être, je dirais. Voilà.
Pour rester dans les procédés... Après, je vais vous laisser le micro, en vrai. Pour rester dans les procédés d'écriture, pour ceux et celles qui connaissent Soul, qui l'ont déjà croisé en ville, tu ne te déplaces jamais sans musique. Et il y a même une petite bande-son musicale à la fin. Comment as-tu défini les morceaux pour les personnes? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu après? Et quelle est l'ambiance musicale, finalement, de ces dialogues? Et après, j'arrête.
Non, mais en plus, je suis moi aussi en train de parler ma voix, c'est très curieux.
Non, ça se passe.
Vu le thème, c'est super. Donc moi, j'écris toujours, mais je pense tout le monde, beaucoup de personnes qui écrivent, j'écris beaucoup en musique ou alors en bordel, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Et par contre, dans les moments où j'écris pas, mais où je me promène et où mon cerveau bosse en tâche de fond... Oui, souvent j'ai de la musique. Et c'est vrai ce que tu dis. Moi, je me déplace quasiment pas sans musique. Enfin, même si j'oublie mon casque, je retourne chez moi, je marche un quart d'heure. Enfin, je peux pas en fait. Voilà, c'est presque maladif. Et je fais des playlists thématiques par projet. Ça m'aide aussi à me mettre dans l'ambiance des projets. Il y a eu pour la séquence Hartmann. Hein, tous les musiciens musiciennes sont remerciés à la fin. Et là, je me suis mis à écouter des trucs. Et alors par la magie. Ou le désastre de l'algorithme sur Spotify. Rapidement, il m'a proposé tout un ensemble de trucs. Je dis, ah, mais c'est trop bien. Et voilà, j'ai construit une playlist sur cette base-là. Et alors, à la fin de l'année, Spotify vous fait votre récap. Et là, il me dit, vous aimez le fourth world music. J'étais là, Kesako, en fait. Et c'est un genre de musique planante, tripante, hyper mélancolique. Donc, ça explique aussi pourquoi, là, ils sont hyper mélancoliques. Qui vient d'ailleurs. Alors, je crois que c'est une rencontre à la fois le mec des Talking Heads ou John Cage. Enfin, voilà. Espèce d'ambiance un peu bizarre. Et assez rapidement, je me suis dit, quand même, chaque morceau me fait penser à un personnage différent. Donc, je me suis amusée à thématiser. Mais c'est aussi une déformation professionnelle dont j'aime bien me moquer, vu que je suis académicien, quelle horreur. Universitaire aussi. Anglicisme total. Et du coup, à la fin, vous avez plein de refs, donc, parce qu'il y a des vrais architectes qui sont cités. Il y a un moment où Diandré fait du bar au citron, donc vous pouvez retrouver la recette du bar au citron. Enfin voilà, bon, ça c'est juste, personne ne va lire ça probablement, mais moi ça m'amuse beaucoup, donc voilà.
On a accès à la playlist Spotify ou...
Alors non, la playlist elle est à moi, par contre, je donne les titres et vous pouvez repartir de ça. J'ai pas le réflexe de la partager, mais parce que instinctivement je me dis pas que ça va intéresser des gens, mais rien, enfin oui ça pourrait en fait.
Je dis rien, on en parlera. Donc je vais laisser peut-être les questions maintenant si vous en avez, aussi bien sur les ouvrages précédents ou ton procédé d'écriture. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises questions, mais moi je peux plus. Donc s'il vous plaît, aidez-moi. Merci.
Et moi je peux faire passer le micro. Et s'il n'y a pas encore de questions dans la salle, est-ce que tu voudrais bien relire un peu de Sundius ?
À relire du Sundius ?
Ouais, ce serait possible ou pas ? Parce que c'était court. Enfin, moi j'ai trouvé.
Ah
ouais. Ouais. Mais désolée, Déborah, si ça t'implique dans le.
Il n'y a pas de souci, je reprends une voix grave.
Alors, il y a la possibilité aussi de lire un passage qui parle de la langue et dans laquelle il y aura forcément des bouts. Et comme ça, tu peux reposer ta douce voix et. Akarnas Asari avait été le premier à donner à Diandré un Jamivansiak, un de ses poèmes dessinés dont l'essence était le tracé, mettant à mal toute vision, séparant la forme du fond. Il existait en effet toute une sous-culture de l'écriture des Jamivansiak et des exercices consacrés, à commencer par celui qui consistait à écrire ce mot exactement, Jamivansiak, et à y faire surgir d'autres idées pour illustrer le principe de la pratique poétique. Les Sunjus, ou les Jisuni plus exactement, avaient une langue redondante, parfois descriptive jusqu'au supplice, et l'autoréférentialité ne leur faisait pas peur. Les Jamivansiak, donc. Jami voulait dire parole. Vansiak était un adjectif charmant, versatile, éventuellement traduisible par sans air, pouvant signifier la mort, le silence forcé ou la sécheresse d'un corps organique, fleur, feuille ou fleuve, même si la logique dans ce dernier cas aurait voulu que l'on dise sans eau. Akarnas Asari, lors d'une des premières visites de Diandré dans ses nouveaux quartiers, lui avait tendu un morceau de papier sur lequel il avait marqué, on disait « somdé » marqué, plutôt que « solmouva » écrire, un de ses poèmes qui ressemblait à un blason. Le poème, encore un autre. Diandré avait cru à une image illustrée, mais sa connaissance du Sunjus, qui était excellente, surtout à l'écrit, avait fait le reste. Il avait lu Jamivansiak dans un premier temps et l'avait compris, car il connaissait tous les fragments qui composaient ce mot. Il avait traduit mentalement par « dead text », Thaï, à sa place, aurait sans doute pensé « lettre morte ». Mais d'autres boucles venaient décorer ce mot central et répétaient ces syllabes « mi » et « si ». « Si mi » en Sunjus voulait dire « changer » et « mi si » ne voulait à proprement parler rien dire, sauf qu'à l'écrit, en utilisant le mot « poème » ou son équivalent en miroir, on comprenait un changement si radical qu'il affectait la langue elle-même. Certaines descendantes, ajoutées après coup, faisaient émerger un « dé », toi, qui donnait à la forme toute sa direction. Ainsi, ce sens indescriptible lui avait explosé au visage. « Par toi je change, par la poésie nous changeons ensemble. Ceci est un poème graphique, change. La poésie change la langue, me change, te change. » Mais sans la lourdeur infinie d'une telle élucubration. Tous ces fragments de sens, conjoints, étaient portés en même temps par la grâce de mots amalgamés qui semblaient ne plus former qu'un seul caractère.
Gros travail aussi sur la poésie, quoi.
Ah, bah alors après, là j'avoue, quand je me suis dit « Ah, je vais inventer de la poésie, ça va être génial !» Je me dis « Mais merde, en fait, il faut que je fasse ça moi, en fait !» Mais du coup, à chaque fois, je me positionne comme je ne sais pas. Et c'est ça qui rend le truc possible. C'est que et j'en parlais d'ailleurs hier avec des auteurs, quand on me dit « Ah mais t'as inventé le Sunjus, c'est incroyable !» Je dis « Bah non, c'est pas incroyable parce qu'en fait, moi j'invente pas le Sunjus, j'invente l'état des connaissances disponibles sur le Sunjus. Donc j'invente ce que les humains pensent de cette langue en fait, et ça à la limite c'est faisable. » Et c'est pareil pour les poèmes dans le sens où on rentre sur la question du mot poème ou du Jamivansiak, on y rentre avec Diandré qui se dit « Ah oh, mais j'adore, moi aussi j'ai envie d'en faire, il est tout nul !» Et du coup, bah, j'ai fait tous les trucs tout nuls de Diandré en premier. Et au bout d'un moment, je fais « Ah ok, ça y est, je vois du coup ce qu'il essaye de faire maintenant que je l'ai fait avec lui. Et maintenant, je vais faire le truc que les extraterrestres savent faire. Et a priori, ils sont plutôt meilleurs à le faire. » Mais en même temps, ce qui importe, c'est pas ça. Ce qui importe, c'est le truc touchant, quoi. Il essaye de créer une forme d'art qui peut avoir du coup une centaine de réceptrices. Et le sens peut paraître limité, mais en fait, bien sûr, c'est un truc d'amour un peu, quoi. Voilà.
Alors, ben voilà, une question.
Tu prends la figure des anthropologues ou des ethnographes, qui est un trope de l'ASF. Mais ce qui est assez chouette, c'est qu'au lieu de l'anthropologue conquérant, déjà, ils sont sur place. Et ensuite, c'est même pas les anthropologues, c'est les petites mains qui sont forcées dans l'ignorance, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas connaissance de l'ensemble des savoirs. Elles n'ont toujours que des savoirs partiels, elles n'ont aucune idée vraiment de ce qu'elles font. Ça va un peu dans le sens de ce que tu dis, et je voudrais t'entendre un peu davantage sur cette figure de l'anthropologue mineur. Enfin.
Ben, en fait, ta question est posée d'une manière qui... Moi, je pense qu'on converge là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée... Enfin, de faire un énième héros qui comprend tout, qui arrive et c'est lui qui va tout solutionner. En fait, il n'y a rien à solutionner. C'est une langue, c'est un peuple étranger. Ils ne vont jamais se comprendre. Voilà. Ils ne vont jamais se comprendre. Mais comme nous tous et toutes, on ne se comprend jamais, en fait. Enfin, dans le meilleur des cas, on est à 80% de compréhension mutuelle et le reste, c'est, voilà, ça passe à l'as, quoi. Donc, l'idée de déverrouiller un truc secret, magique, enfin, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Et c'est super que tu aies vu ça, je trouve, parce que les petites mains, oui, et en même temps des espèces de métiers hybrides que moi, je me suis éclatée à inventer. Et c'était important aussi pour moi, et peut-être que quand il y aura d'autres fictions, je le ferai, de montrer que le centre, c'est à la fois un lieu terrible, parce que c'est le résultat de très mauvaises décisions politiques. C'est aussi un lieu de pouvoir, dans lequel il y a un rapport hiérarchique. Enfin, c'est foucauldien à l'extrême, le truc. Et en même temps, il y a des gens qui sont, je dirais, même pas gentils, mais qui font des efforts et qui essayent de faire autre chose. Et il y a quand même une culture. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui s'invente. Il y a des documentalistes, il y a des médiateurs, des médiatrices, il y a des digitateurs. Voilà, ils ont inventé en fait toute une somme de métiers qui sont pas terribles. Parce que tous ces métiers reposent sur un dispositif qui est extra-violent. Et en même temps, il y a des choses qui échappent au dispositif. Enfin... Quelque part, l'aspect très contraignant du dispositif va créer autre chose aussi. Et ça, c'est peut-être, pour le coup, tu disais tout à l'heure, Déborah, que c'était très mélancolique. S'il y a une note d'espoir là, dans ce truc-là, mon avis, elle est là. C'est de montrer que finalement, alors bon, c'est peut-être un peu hegelien, là, pour le coup, mais plus un dispositif est contraignant, est fort, est verrouillé, plus aussi il va créer, enfin, il va se saturer lui-même et il va créer ses propres fêlures. Et c'est, à mon avis, ce qui se passe dans le bouquin sans trop divulgâcher. Je ne sais pas si ça répond à ta question tellement, mais...
Déborah, est-ce que tu as une dernière question ?
Après, sinon, moi, je me lance tout seul.
On va avoir des verres. Peut-être pour revenir sur le procédé. Donc, tu as dit que tu as besoin d'écrire dans le bruit, la musique. Tu vas beaucoup faire des recherches et que tu écris de façon littéraire, enfin, de A à Z. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris dans tes personnages quand tu les as écrits ?
Alors, Akarnas Asari m'a beaucoup surpris parce que je pense quand même qu'à la base, je le positionnais vraiment. Enfin, je voulais pas le positionner comme un autre, mais enfin, évidemment, j'avais plus. J'ai l'expérience d'avoir été expatrié à New York, je n'ai pas l'expérience de m'être écrasé sur Central Park avec un vaisseau. Donc, il y a un moment quand même, il y a peut-être un personnage qui était plus proche de moi. Et il a pris beaucoup de place et je trouvais. Enfin, voilà, j'ai été un peu assez ravie aussi de voir que il a émergé avec sa personnalité. Et après, deux autres personnages m'ont surpris. Déjà, Di André, parce qu'il n'était pas du tout question qu'il prenne autant de place. Et ce personnage, entre autres, parler de l'art, il me sert aussi à parler de la dépendance aux substances. Et, enfin, il me sert, j'aime pas le dire comme ça, mais en tout cas, il permet de parler de la dépendance aux substances. Et il permet aussi de parler ce que c'est que l'amour quand ça fait 10 ans et qu'on s'emmerde un peu. Enfin, on s'emmerde pas, mais du coup, on n'est pas sûr, mais du coup, on se pose la question, et du coup, on se dit qu'on devrait se séparer, mais en même temps, on voit pas pourquoi. Enfin, voilà. Di André permet de parler de ça. Et après, il y a le personnage de Corbin, dont on n'a pas du tout parlé, qui est, alors pour le coup, qui serait vraiment la figure insupportable du chef, qu'on a très envie de détester. C'est le mec 6-7 avec la photo de ses gamins sur le bureau. Enfin voilà, là pour le coup, celui-là, il est un peu programmé pour être. Bon, en tout cas, pour un public queer, on va dire, assez rapidement, on va dire oh là là, en plus, c'est lui qui dirige, il est horrible, etc. Et en fait, il m'a surpris parce qu'il est devenu assez tendre au fur et à mesure de l'écriture. À tel point qu'aujourd'hui, j'exclus pas d'écrire sur lui. C'est un comble. Voilà. Mais parce qu'en fait, les gens, c'est pas qu'ils sont queer ou pas queer. Enfin, je veux dire, en fait, peut-être que Corbyn est queer aussi, quoi. Enfin, voilà. Bref.
Alors, petite question qui, moi, m'a marquée. C'est que les aliens ont des identités de genre ou non. C'est-à-dire qu'à un moment, justement, on va parler d'un alien qui est non-binaire, qui préfère « they ». Est-ce que c'est une question de langue, de passage dans une langue type l'anglais, les oblige à se genrer? Et pourquoi, ou est-ce que c'est un flou aussi volontaire, que c'est comme le flou des corps? Par exemple, on sait qu'Akarna Sassari préfère le « he », en tout cas, mais on est incapable de savoir quel est son genre pour autant. Et ça se voit par le prénom, qui n'est pas du tout genré.
Bah, c'est-à-dire que j'ai rien eu besoin d'écrire qui me forçait à parler de la sexuation, si tant est qu'elle est identique à la nôtre ou analogue à la nôtre, d'Akarna Sassari. Donc à partir de là, bah, les lecteurs ils se feront le job. Voilà. Après, par contre, il y a quand même un moment où je me suis dit, on va parler de genre, mais je n'ai pas pris la question sur comment ils se genrent, j'ai pris la question sur leur concept de personne. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'imaginer. Nous, on a, voilà, là, on a quand même ces concepts fondateurs, même si on les aime plus ou moins, d'hommes et de femmes dans beaucoup de sociétés occidentales. Qu'est-ce qui se passe si dans cette société-là, le concept même de personne, c'est un concept fluide et variable. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul mot pour dire personne. Il y a une combinatoire, je crois, de 9 mots, si je me rappelle bien, qui permet de dire différemment personne et de nommer des énergies et des ressentis différents de la personne. Selon plusieurs axes. Il y a un axe d'âge, il y a un axe de socialité, et il y a un axe, alors pareil, de genre, mais ça c'est ce que pensent les humains qui les étudient, en fait, possiblement ils n'ont rien compris, quoi. Voilà. Et l'idée c'était aussi de se dire bah, comment, à partir du moment où leur concept de personne, c'est même au-delà de ce que le concept veut dire, c'est comment ils marchent, voilà. Et c'est comment eux, quand ils nomment, quand ils disent, je sais pas, j'ai vu hier cette personne, déjà ils disent des choses sur elle. Et ils disent autre chose que nous on dit. Enfin, pareil, les adjectifs sont pas les mêmes, la relation à l'adjectif et à la qualification sont pas les mêmes. Donc, c'est plutôt ça que j'ai eu envie de déplacer. Après, c'est un continent. Hein. En vrai, là, j'ai ouvert ça, mais je peux encore créer plein d'autres trucs. Et selon. Moi, je crée pas les trucs ex nihilo vraiment. C'est, je vais dans une situation et là, je me dis, ah, ok, il y a ça. Comment ils l'approchent? Et du coup, je vais créer la langue en fonction de ce qui se passe. Voilà, plutôt.
Merci beaucoup.
Merci. La rencontre s'achève alors. Toujours pas de questions au cas où, non? Merci à tous les deux.
Merci beaucoup. D'être...
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Ben bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venu ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.